Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jocelyn Cormier, on parle ensemble des troubles de sommeil. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, les accords Toltec. Notre collaboratrice Catherine Stassin amène sa chronique « Quand le voyage nous soigne ». On commence en chanson avec Sophia Bell et la chanson s'intitule « You're not real, you're just a ghost ». Bienvenue à Folie douce.
Syntoniser l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
C'est avec plaisir que je reçois Jocelyn Cormier. Bonjour Jocelyn.
Bonjour.
Et bienvenue encore une fois à Folie douce. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet important. On vit tous ça, le sommeil, mais surtout les troubles de sommeil. T'es un exemple vivant, en fait, de pour nous parler du sommeil. D'abord, avant de commencer, je veux quand même te présenter. Tu as été animateur radio-télé, maintenant à la retraite. Tu as une bonne expérience des médias. Tu as, je pense, souffert, et tu souffres peut-être, façon de parler, souffres là, de problèmes de sommeil. En tout cas, tu les gères. Comment tu peux nous parler du sommeil? Puis évidemment, on va avoir plusieurs minutes pour élaborer.
Bien, j'aime bien que vous m'invitiez pour en parler, parce que moi-même, je me pose plusieurs questions par rapport aux troubles du sommeil. À l'adolescence, je souffrais déjà d'un trouble du sommeil. Bon, on est tous inquiets par notre avenir, etc. Ouais. Mais je me suis aperçu graduellement que je souffrais aussi d'apnée du sommeil, mais seulement à l'âge de 30 ans. Mais tout ce temps-là, je manquais de respire, j'étais fatigué plus souvent qu'à mon tour, puis je me posais la question, qu'est-ce que c'est? Puis à cette époque-là, moi, ça fait 25 ans que j'ai un appareil CPAP pour respirer la nuit.
Oui, l'appareil qui est connu, que beaucoup de gens utilisent, plus qu'on pense d'ailleurs.
C'est pas mal le seul traitement qui est à peu près valable. Là. Il n'est pas 100% efficace, mais c'est mieux que rien du tout.
C'est comme un masque, en fait, qu'on porte toute la nuit. Hein, avec
un ventilateur.
Un ventilateur, parce que c'est pas de l'oxygène. Là,
c'est de l'air qui est propulsé. Il y a deux formes de machines. Il y en a une qui va avoir un jet continu, puis une autre qui est un peu plus développée, qui, elle, va donner un jet supplémentaire lorsque l'appareil s'aperçoit que tu as arrêté de respirer.
Okay.
Il y a un moniteur là-dedans, d'ailleurs, qui enregistre tous les arrêts respiratoires, et ton médecin peut te suivre à chaque jour pour savoir si tu commences à avoir moins d'arrêts, etc. Ouais. Mais ce qui est intéressant, moi, c'est toujours relié à l'anxiété. Je me suis posé une question, moi. Est-ce que la fatigue, l'épuisement qui vient des mauvaises nuits de sommeil, a un lien direct sur l'anxiété? Parce que, j'ai participé à plusieurs groupes de soutien pour voir comment ça fonctionne, l'anxiété. Je voulais savoir comment d'autres vivaient ça, parce que j'en fais, moi, de l'anxiété. Alors, et je me suis aperçu que je ne suis pas tout seul à souffrir des troubles du sommeil aussi. Alors, est-ce qu'un vient avant l'autre ou après l'autre?
Le fou la poule, là.
On ne le sait pas encore.
Est-ce qu'on est anxieux puis on développe ça? Ou est-ce qu'à cause qu'on développe ça, on devient anxieux, effectivement?
Alors, j'ai fait un tour de table à un moment donné. C'est pas scientifique, là, mais autour de la table, il n'y avait que des personnes anxieuses. J'ai demandé à chacun, est-ce que vous avez des troubles du sommeil? Est-ce que vous passez de bonnes nuits? Moi, au départ, j'ai même posé la question dans le sens, est-ce que tous les personnes qui souffrent d'anxiété ont aussi des problèmes de sommeil? Il y en a un qui dit, pas du tout. Moi, je me couche puis je dors. Sauf que deux minutes plus tard, on a appris qu'il dormait 14 heures par jour. Alors, c'est un trouble du sommeil, ça aussi. Trop, c'est comme pas assez.
Il y a besoin exagéré de sommeil, c'est ça?
Mais je pense qu'une fois que tu es fatigué et épuisé, il peut t'arriver toutes sortes de pépins, dont, entre autres, mal gérer tes émotions. Alors, l'anxiété, c'est un peu ça. Là. C'est plus que ça, là, mais en tout cas, tu es plus fort lorsque tu dors bien. Alors, là, c'est de voir comment on peut changer ça pour qu'on ait une meilleure nuit de sommeil. Je pense que c'est absolument essentiel parce que, dépendant de quelle forme d'anxiété que tu peux avoir, mais si tu es déjà reposé, tu es plus en mesure d'y faire face dans le courant de la journée.
Tu te sens plus fort, là, tu te sens plus outillé, tu te sens plus moyen de... Ouais. C'est ça.
Moi, dans mon cas, je trouve que les levées du matin sont difficiles parce que la nuit n'a pas été longue. Ouais. Tu voudrais continuer à essayer d'avoir quelques heures de plus de sommeil. Mais c'est comme chronique, là, tu sais. Puis l'anxiété, hein, c'est connu, c'est quelque chose qui ne se guérit pas nécessairement complètement, mais avec lequel tu vas continuer à vivre.
Tu peux essayer de contrôler, peut-être.
Oui, contrôler, quand c'est bien contrôlé, on le voit venir, puis on le sait, puis on est capable de continuer à opérer. C'est pas facile et agréable, mais on sait que c'est temporaire dans la journée. Ce n'est pas 24 heures par jour pour la plupart des cas, c'est occasionnel.
Ouais.
Et puis ça peut varier avec les années aussi pour réduire, etc. Mais moi, je demeure convaincu qu'une personne qui est bien reposée est en mesure de faire face à n'importe quel problème beaucoup mieux qu'une personne qui est fatiguée au départ.
Pour démystifier, tu es un exemple, ça fait longtemps, ça fait 25 ans, tu dis que tu utilises la machine là, que tu appelles pour...
CPAP.
CPAP, c'est ça. Démystifier ça fait du bruit. Comment tu t'habitues à ça? Est-ce que tu es habitué? Est-ce que tu l'oublies? Oui. Comment ça fonctionne?
C'est une très bonne
Parce
question.
Parce que j'ai jamais posé cette question-là. En fait, on n'a jamais vraiment parlé de ça, mais tu peux...
La première fois qu'on se met ça dans le visage, on étouffe. Moi, je l'ai garoché au bout de mes bras.
C'est pas vrai que je vais passer...
Écoute, c'est comme si on me pognait à la gorge et on voulait m'égorger.
Okay.
Mais ça pousse
l'air, quoi. C'est ça, c'est inconfortable,
Mais c'est des courroies aussi tout le tour de la tête pour que ça tienne en place. Ouais. Dès que tu bouges un peu, ça se déplace. Alors, ça pourrait te réveiller à chaque fois que tu tournes de bord dans ton lit, etc. Mais moi, j'ai une personne que je connais dont je tairai le nom pour sauver les innocents.
Ouais.
Mais c'est que cette personne-là n'a jamais été capable de s'habituer à cette machine-là. Il a essayé pendant un mois, puis a finalement décidé de ne pas aller vers ça.
Okay.
Parce qu'il était incapable de la supporter. Donc, ça peut arriver que des gens ne soient pas capables.
C'est pas évident, parce que ça doit faire du bruit, ça doit être...
Bruit est quand même pas si mal. C'est pour le conjoint que c'est pire. Parce qu'effectivement, c'est le conjoint ou la conjointe, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui souffrent d'apnée du sommeil. Puis on disait souvent dans le temps aussi, si on cherche à savoir quel est le portrait d'une personne qui souffre d'apnée du sommeil, c'est pas nécessairement... Dans le temps, on disait que c'est une personne qui est plutôt un excès de poids. Et qui a un jabot dans le cou, là, qui a la gorge un peu plus proéminente.
Ouais.
Mais c'est pas vrai, ça.
Pas
moi,
vrai,
je pesais 122 livres, puis
que toi, t'es
5
quand
et 10,
même,
puis
c'est
je assez souffrais mince, de
c'est
ça.
Tout, c'est ah, ça. Ouais, non. Non, non, ça, ça paraît, ça, donc ça, c'est un mythe, en fait. L'excès de poids, c'est pas vraiment
non.
un problème.
Ni excès de poids, ni genre, homme ou femme, qui que ce soit. Mais il y a même des enfants qui en ont de l'apnée du sommeil.
Ouais.
Ça va même plus loin que ça. Hein. Le syndrome du bébé qui va mourir dans la nuit, là, ce serait de l'apnée du sommeil. Ça.
Okay.
Le bébé arrêterait de respirer, mais il n'est pas capable de respirer par lui-même. T'sais, il ne reprend pas. Là. C'est pour ça qu'il y a des moniteurs pour ça aussi.
C'est ça.
Ça, je ne m'avancerai pas là-dedans.
Puis il n'y a pas eu de diagnostic, évidemment, souvent, le jeune enfant.
C'est ça. Alors, pour ceux qui ont ce problème-là, il y a un appareil qu'on met près du bébé, puis ça déclenche dès que le bébé arrête de respirer. On
donc
le sait.
On peut,
un drame épouvantable.
Ben oui, absolument. Faut
il faire. Paraît qu'on ne meurt pas d'une apnée de sommeil. Pour adultes, là, on n'en meurt pas de ça. C'est la maladie du cœur qui, elle, se jette sur vous parce qu'à chaque fois que vous arrêtez de respirer, le cœur se met à se débattre beaucoup plus fort pour aller chercher de l'oxygène. Il y a besoin d'oxygène.
Ouais.
Alors, c'est ça qui arrive. Il est arrivé quelque chose l'été passé aussi, il faut que je vous en parle absolument.
Ouais.
Pour ceux qui ont les appareils, le Philips, ils ont reçu l'été dernier un avis, puis ça s'est fait à travers le monde. Ça, Philips, c'est une compagnie américaine. Et moi, j'en avais un appareil comme ça. C'est avec ça que je.
Ça fait longtemps.
C'était
un des premiers, finalement.
Oui, c'est ça. Mais j'ai eu différents appareils dans ma vie, mais celle-là, je l'avais l'été dernier. J'ai reçu une lettre qui m'indiquait de la compagnie Philips qu'il fallait que j'arrête d'utiliser cet appareil-là. Je le dis aussi pour les gens qui écoutent et qui ont ces appareils-là. Il y a eu un rappel sur ces appareils Philips. Et la plupart des appareils étaient touchés. On parle de 10 000 machines seulement au Québec. Alors, ces machines-là, Philips demandait de les retirer du marché parce que ça pouvait causer toutes sortes de lésions. Et il y avait une liste épouvantable et épeurante, là. Alors que la personne dans la même enveloppe, l'organisme qui l'avait vendu, lui disait « Vous allez continuer de l'utiliser, n'arrêtez pas de l'utiliser parce que les dommages que vous allez vous causer à votre santé, celui de l'apnée du sommeil, va être plus grave que les risques que vous avez avec la machine. » Alors, tu étais confronté, puis si tu es anxieux en plus, comment...
Message contradictoire, totalement. Ben,
je te jure, quand tu rouvres l'enveloppe, puis tu as deux versions de la même histoire qui étaient racontées, laquelle tu prends?
Mais c'est drôle que dans l'enveloppe, il y a les deux, tu sais, tu as le fabricant, puis tu as le... Ils ont comme été obligés, selon la loi, de l'envoyer, mais il y a un recours, je pense.
Ouais. Actuellement, il y a un recours collectif qui se fait. Ça, c'est quelque chose qui va prendre des années, mais c'est bon de savoir. Si vous avez été touché par une de ces machines-là, bon, vous devez faire les démarches pour savoir.
Ouais.
Il y a des sites Internet pour ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, vous devez être aussi la personne qui a reçu. Moi, j'ai reçu un avis de la compagnie Philips chez moi. En principe, tous les appareils ont été couverts, mais ils ont commencé à les remplacer, les appareils. Mais moi, j'ai toujours pas le mien.
C'est à suivre. Mais au niveau des troubles du sommeil, donc, t'as vécu, ben, t'étais justement animateur, t'avais probablement des horaires atypiques, du stress, etc. Tout ça, en plus de ta problématique là, d'apnée du sommeil, mais comment tu qualifierais ton sommeil d'aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il est mieux? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre là, de sommeil?
Je pense, José, qu'il est pire. Parce que je pense qu'un est probablement lié à l'autre. J'ai l'impression, moi, que le manque de sommeil, comme on le disait au départ de cette entrevue, là,
ouais.
L'apnée du sommeil peut être en partie causée par le manque de l'anxiété peut être causée par le manque de sommeil. Donc, avec les années, j'ai de moins en moins de sommeil parce que, oui, l'appareil, il nous aide à éviter l'apnée du sommeil, mais il n'empêche pas les crises de sommeil. Quand on ne peut plus respirer du tout, l'apnée de sommeil n'a pas rapport avec ça. T'sais. L'insomnie, ça ne se guérit pas par ça. Alors, c'est une façon de voir peut-être sa vie, etc. Alors, moi, je pense que d'étant très fatigué, ça a amené l'anxiété par-dessus l'apnée du sommeil.
OK, OK. Mais comment tu gères ça? Parce que dans le fond, il faut vivre, il faut être
oui.
Aspirer, être heureux. Donc, tu sembles être quelqu'un de bonne humeur, mais
oui.
Effectivement, il faut quand même que tu le gères là, au quotidien.
Moi, j'ai été suivi. Moi, j'ai demandé de l'aide à un moment donné au CLSC pour voir comment on gère ça, l'anxiété. Je n'avais pas connu ça avant la pandémie, là. Moi, ça m'a jeté dans le tourment, ça, cette histoire-là. Puis j'ai beaucoup cru qu'on allait tous y passer, etc. Mais j'ai demandé de l'aide, puis je me suis associé à des organismes qui ont des groupes de soutien. Et pour moi, ça, les groupes de soutien, c'est important. C'est important de savoir qu'il y a d'autres personnes comme vous qui souffrent de cette maladie-là et qu'il y a moyen de s'entraider. Je pense que les groupes de soutien, c'est important. Moi, je vous dis le chemin que moi, j'ai choisi. J'ai fait appel au CLSC. Je suis allé expliquer ce que j'avais. J'ai de la difficulté à dormir. Le matin, je suis pas de bonne humeur, je file pas, et ma journée est difficile à entreprendre.
Ça me prend du temps avant d'avancer
ouais,
comme il faut.
Puis pratiquement des crises de panique aussi,
ah,
que
oui?
Je n'avais pas connues. Pendant la pandémie, ouais, il
ouais.
Fallait que je sorte absolument. Alors, okay. Je dis à des gens, si vous souffrez de la même chose, d'abord, restez pas seul. Mais demandez de l'aide dans les CLSC, il y a beaucoup de possibilités pour avoir de l'aide. Et cherchez-vous des groupes de soutien, ça m'apparaît très important. Et ressoudez autour de vous votre entourage, parents, amis, famille. Il faut absolument qu'il y ait des gens autour de vous qui vous comprennent, qui vous écoutent. Échangez avec les gens, gardez pas ça pour vous.
Ça désamorce en fait un peu les problématiques. Oui. Donc on est moins anxieux, on dort mieux probablement. Donc,
c'est de travailler là-dessus. Et aussi, moi, je pense que l'activité physique est un des outils qu'on apprend, entre autres, à la clé des champs, là. L'un des outils, c'est d'être actif. Il faut physiquement sortir de la maison. Il ne faut pas rester là. C'est un lieu clos. Ça n'amène rien. Il faut être actif, continuer à bouger. Et de ça, ça part déjà une meilleure journée. Mais entourez-vous de gens. Je pense que c'est ça le secret.
Dans les gens qui, disons, qui ne sont pas familiers avec ça, est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà dit, on se tente à tête, là, les troubles de sommeil, là, d'art, puis ça va être beau. Là. Est-ce que les gens qui, peut-être, qui prennent ça un peu avec un grain de sel parce qu'ils n'ont pas de problématique? Là?
Absolument. Ça, on est confronté avec ça dès la première journée, mais je ne peux pas les blâmer parce que moi-même, il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était l'anxiété. Donc, moi, angoisse puis anxiété, pour moi, c'est le même mot. Et puis c'est pas du tout le même mot, c'est tout à fait autre chose. Alors oui, il faut s'attendre que des gens qui ne comprendront pas, mais il ne faut pas s'en vexer non plus, parce que c'est de l'ignorance. Tu n'es pas touché par ça, tu n'as jamais connu personne qui l'a été. Il y a des gens, oui, qui vont dire facilement « Ah, tu t'écoutes trop ». Ça, c'est j'ai entendu ça souvent. « Tu t'écoutes trop. Moi, je fais ma vie, puis je n'ai pas de problème. » Oui, il y a des gens qui n'ont pas de problème.
Tant mieux.
Il y en a qui dorment bien aussi, puis il y en a d'autres qui dorment mal.
C'est ça.
Mais je pense que c'est d'essayer de dépister aussi les gens qui sont capables de vous écouter. Puis moi, à force de parler avec des gens, je me suis aperçu, vous seriez surpris du nombre de personnes qui font de l'anxiété et qui le cachent très bien.
Mm-hmm. C'est ça. Ben, ça reste tabou à quelque part. Tu sais. C'est ça. Oui. C'est pas tout le monde qui est à l'aise, mais je te remercie beaucoup de le partager. Je pense que c'est une belle marque aussi de maturité ou en tout cas de contrôle de soi. Jusqu'à un certain point, tu te connais bien puis tu veux partager les problématiques pour aider les gens. Alors, c'est parfait. Merci, Jocelyn, d'avoir été des nôtres. C'est toujours intéressant.
Avec plaisir.
Puis bon sommeil, surtout pour... pas maintenant, mais la nuit prochaine.
Bon sommeil à tous.
Merci.
Merci.
À la prochaine.
Pourquoi tu me fais la bise? Moi, je voulais t'embrasser. Toi, t'as penché comme à bise. Gauche ou droite, t'as hésité. Le couple est comme un poison dans l'eau. On se retiendra par le maillot jusqu'à se blinder de couleurs. Et on ne sautera pas. Ça déboule quand on ne l'attend pas. Pourquoi tu me fais la bise? Moi je voulais t'embrasser. Toi t'as penché comme à pise. Gauche ou droite t'as hésité. Pourquoi tu me fais la bise? Le fond de l'air m'effraie. On s'était promis Venise, mais c'était trop mouillé. Hier, c'est beau. Je repense à ta mère, c'est chaud. On vivra d'amour et d'innocence. On finira nos phrases en avance. Et nous, on sera fidèles comme l'était Castro. J'ai lu sur tes lèvres des milliers de mots. Pourquoi tu me fais la bise? Moi, je voulais t'embrasser. J'ai comme un pise. Gauche ou droite t'as hésité. Pourquoi tu me fais la bise? Le fond de l'air m'effraie. On s'était promis Venise, mais c'était trop mouillé. Et c'est parti pour l'infini. On n'ira pas au paradis. Et puis au pire on sait ce qu'on ne verra pas. Et puis au pire on sait ce qu'on ne verra pas. Pourquoi tu me fais la bise? Pourquoi tu me fais la bise? Pourquoi tu me fais la bise? Moi je voulais t'embrasser. Toi t'as penché comme un bise. Les couples sont tous les mêmes. Vacances, on réservait, on paye. Ce qu'on ne se dit pas. On réservait, on paye. Ce qu'on ne se dit pas.
Polydouce est aussi présent sur Instagram. Venez nous voir.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, les accords Toltec.
Oui, un drôle de titre.
Ouais.
Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Ici, les accords Toltec, quatre règles pour mieux se connaître ». C'est un article que j'ai trouvé sur le site Internet où je vais de temps en temps. Ça s'appelle simplement psychologie.com. C'est un site français. Et c'est écrit par une madame du nom de Aurore Emelet, qui est journaliste, rédactrice spécialisée en psychologie. Alors, ce livre, elle nous dit, c'est l'histoire d'un livre devenu livre culte. Quatre règles de vie à expliquer pour une promesse de liberté, de bonheur et d'amour. Philosophie à bon marché ou méthode efficace pour mieux se connaître et s'aimer? Point d'interrogation.
Ouais.
Ça fait un peu pas psychologie.
Oui, mais ça semble simple, si ouais. c'est réel, effectivement.
Oui, c'est quelque chose qui est venu m'accrocher quand même. L'auteur, c'est un monsieur du nom de Miguel Ruiz, R-U-I-Z. Et il est né en 1952 dans une famille de guérisseurs au Mexique. Ce monsieur Miguel Ruiz devient neurochirurgien avant qu'une expérience de mort imminente dans les années 1970 ne transforme sa vie. Il décide alors de retrouver le savoir de ses ancêtres toltèques. Il devient chaman et se donne pour mission de transmettre cette sagesse au plus grand nombre. Après des années d'enseignement et d'écriture, il est victime d'une attaque cardiaque en 2002 et passe le relais à son fils José Luis Ruiz. Les quatre accords toltèques restent cependant son livre phare. Maintenant, qui sont ces Toltecs? Eh bien, ce furent des guerriers du nord de l'Amérique latine. Les Toltecs ont vécu dans l'actuel Mexique entre les années 1000 et 1300. D'après les légendes et les vestiges retrouvés, ce peuple a développé le raffinement dans les arts et l'architecture ainsi qu'une sagesse dont les fameux accords seraient la clé essentielle. Revendiquant fièrement cet héritage, les Aztèques auraient transmis le savoir et la philosophie des Toltecs.
Ça prendra toujours des sages pour nous ramener aux vraies affaires.
C'est vrai.
C'est vrai. Des fois, on se complique la vie, mais ça prend des gens qui songent à ça, qui vont réfléchir.
Puis tu vois, c'est pas d'hier au matin.
Non,
ces gens-là ont vécu dans les années 1000 à 1300, donc...
À toutes les époques, il y a eu des problèmes, puis les gens probablement s'en faisaient pour plein de choses, puis il y avait toujours un besoin d'être plus heureux. Là.
Exactement. Il y a des règles de vie, en somme.
Ouais.
Alors, les quatre accords toltèques, le titre original en anglais, c'était « The Four Agreements ». Alors, c'est un livre d'une centaine de pages publié en 1997 aux États-Unis. Eh bien, ce livre s'est déjà écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. En Amérique, c'est l'animatrice bien connue de télévision Oprah Winfrey, qui est considérée comme la femme la plus influente de son pays, qui l'a sortie de l'ombre en l'année 2000 en disant tout le bien qu'elle en pensait dans son fameux talk show. Et ce fut un succès immédiat. Depuis, l'auteur de l'ouvrage, le chaman mexicain Miguel Ruiz, a pris soin de faire de ses accords une marque déposée. En France, c'est Maude Séjournant, une proche de Miguel Ruiz, qui est une enseignante certifiée, qui est à l'origine de sa publication. Il a été traduit en 1999. Cet ouvrage a vite trouvé des aficionados. Il a inspiré le romancier Bernard Werber et nombre de thérapeutes français. Monsieur Olivier Perrault, qui est psychologue clinicien et président de l'Association française de la nouvelle hypnose, a dit « Quand j'ai découvert le livre, j'ai eu le sentiment que l'auteur y avait retranscrit les observations issues de ma propre expérience ». Sur Internet, les blogs et forums ont amplifié le succès de Miguel Ruiz. À ce jour, plus de 100 000 exemplaires de son ouvrage ont été vendus en France.
Donc, ça touche beaucoup de gens, là. C'est ça, les principes de base, peut-être, de la vie, là, pour être heureux,
mm-hmm.
C'est ça.
Mais je dois t'avouer que moi-même, je n'avais jamais entendu parler de ce livre. C'est seulement en surfant, comme on dit, sur l'Internet que ça a attiré mon attention. Madame Maude Séjournant, qui est thérapeute, nous dit « Miguel Ruiz propose de passer avec soi quatre accords visant à briser nos croyances limitatives, celles que nous développons depuis l'enfance qui distordent de la réalité et nous maintiennent dans la souffrance. À force de conditionnements culturels et éducatifs sur ce qui est juste ou faux, bon ou mauvais, beau ou laid, et de projections personnelles comme « je dois être gentil, je dois réussir », nous avons intégré une image fausse de nous-mêmes et du monde. Ces idées ne sont pas nouvelles. Le psychiatre François Thioly nous dit « Elles reprennent les principes de la thérapie cognitive qui démontrent à quel point le manque de distance ou la généralisation abusive sont des pièges. » Pourquoi alors cet engouement? D'après Maude Séjournant, le talent de l'auteur est d'expliquer ces quatre accords avec des mots simples et des cas concrets. M. Thierry Gros, qui est coach et auteur, nous dit « Il n'est pas nécessaire d'être initié pour les mettre en pratique. » Miguel Ruiz n'ordonne rien et laisse entendre que s'il a pu s'approprier ces accords, tout le monde peut le faire. Ajoutez à cela la formulation même des préceptes. M. Jacques Maire, qui est directeur des éditions Jouvence, auquel on doit la version française de l'ouvrage, nous dit qu'ils tiennent en quelques mots, c'est-à-dire la formulation même des préceptes ne tiennent qu'en quelques mots faciles à retenir. Et vous détenez le secret de ce best-seller. Ça te donne envie de le lire,
ben oui, non? Ben oui, tu l'as pas, là?
Écoute,
tu pourrais le feuilleter.
Je vais faire un résumé des quatre accords.
Oui, quand même.
Alors, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez.
Ah, il faut dire ce qu'on pense.
Exactement. N'utilisez pas la parole contre vous et ni pour médire autrui.
Ça, ouais, ça c'est un bon principe, effectivement, ouais. Qu'on...
Ben, c'est plein de sens,
c'est jamais bon.
Oui. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission.
Tu nous titilles avec ça. Donc, on va continuer des accords Toltec pour en savoir plus. Demeurer des nôtres et plus tard à l'émission Folie douce.
La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
Bonjour Catherine Stassin.
Bonjour Yvon.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, tu nous amènes un sujet qui est plutôt, qui est quand même joyeux, je dirais. Quand le voyage nous soigne.
Quand le voyage nous soigne, eh bien, on va mieux, c'est
oui.
sûr.
Le voyage, déjà, ça évoque plein de choses.
Ça évoque plein de choses. On parle surtout ici de vacances, de quelques jours de voyage. Ça peut être un petit ou un grand voyage. Et on se rend compte que ces temps d'arrêt dans nos vies nous permettent, nous font l'effet d'une thérapie. Et on va voir que pendant ces petits moments-là, ben, on arrive à combler nos besoins de base, comme boire, manger, discuter et aussi prendre soin de nous.
Ouais.
Et on est plus attentif, on a plus de temps pour ça. Alors en fait, on attribue pas mal de bienfaits à la thérapie du voyage. C'est un vocabulaire ouais. un petit peu plus nouveau, ça.
Il faut dire que la vie de tous les jours ne nous permet pas de prendre un recul. Tu sais, le train-train, le travail, les deux jours peut-être pour certains, ceux qui travaillent à temps plein ont deux jours de fin de semaine. C'est à peine pour juste se reposer un peu. On n'a même pas le temps de réfléchir à notre vie. Là. Alors qu'en voyage, des fois, ça se passe plus.
Exactement, on n'a pas le temps de réfléchir, comme tu dis, ou de tout à fait prendre soin de nous. Si on a des responsabilités, on prend un peu soin des autres d'abord, ouais. et puis on prend soin de soi. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait son chemin dans la population. On dit oui, mais attention, il faut prendre soin de nous. Et donc, c'est bien fait. En fait, ils sont très très simples et ils proviennent des fois tout simplement du changement d'environnement.
Ouais.
Donc, on se retrouve dans un nouvel environnement qui, en général, on l'a choisi comme agréable, que ce soit au bord de l'eau, en forêt. Normalement, on a choisi l'environnement, un environnement qui nous fait du bien. En plus, on va vivre de nouvelles expériences. Alors, ou bien on a loué un chalet avec des amis, ou bien tout seul et pour prendre, avoir un peu de silence. Donc, on va vivre une expérience peut-être de solitude ou bien d'amitié avec de nouvelles personnes qu'on va rencontrer si on fait du camping. Et tout cela, tout ce nouvel environnement va stimuler nos sens. Il va aussi encourager notre apprentissage et il est certain qu'en général, quand on prend des vacances, on est plus dehors. Alors, ouais. Je ne sais pas, toi, Yvan, si tu es plus dehors quand tu prends des vacances, mais c'est quelque chose qui est attribué de manière générale.
Oui, je suis plus dehors. Puis je me rends compte aussi qu'on, comme tu disais tantôt, on rencontre souvent des gens qu'on ne rencontrerait jamais autrement. Parce que peut-être qu'on est disponible plus, tu sais, justement. On est en mode. On est moins bon. Je ne sais pas, j'ai un train à prendre, puis il faut que je rentre faire ici et faire ça. Tu sais, il y a comme moins de. Il y a moins de contraintes que dans la vie de tous les jours.
C'est vrai qu'on rencontre peut-être. On croise peut-être des personnes aussi intéressantes dans la vie de tous les jours. Mais là, on n'a pas. On ne garde pas sa montre pour dire je vais aller à la garderie, être à l'heure, ouais, ou des choses comme ça. Donc, c'est certain qu'on va prendre le temps, peut-être simplement en achetant son pain, d'aller discuter avec les personnes dans la file ou à la sortie. Quand on demande son chemin, bon, on va peut-être plus élaborer. Donc, tout ça, ça fait aussi que on va plus discuter avec les personnes. Ça va un petit peu renforcer le côté social. On va aussi, en général, pas tout le monde, favoriser des activités sportives. Alors, ça peut être la marche, la natation... là, on va être dehors, et qui dit dehors dit soleil, ou un petit peu en tout cas, ouais. Avec de la vitamine D et aussi de la luminosité qui provoque donc la production de l'hormone de la sérotonine, d'accord ? Donc ça, c'est une hormone aussi de bien-être, on va se sentir mieux, on va être dans un certain... nuage agréable, on va dire ça comme ça. Et en marchant aussi, on produit des endorphines en marchant, en faisant une autre activité, du tennis ou quelconque activité où on va s'activer, d'accord ? Et on parle aussi, on parle plus facilement avec des personnes. On va peut-être aller aussi au restaurant ou on va peut-être, quand on mange, pique-niquer et prendre le temps de manger, que ce soit ou en famille ou avec des amis. Tout ça, c'est important parce qu'on va échanger et du coup, on va voir comment va l'autre, on va être peut-être rassuré, on va prendre le temps de mieux se connaître aussi. Et ça, ça fait du bien. C'est dans nos besoins de base, tout ça, pour aller bien.
Et certaines personnes, si je ne m'abuse, disaient qu'ils prenaient très rarement des vacances. Pour moi, c'est un must, ça. C'est presque obligatoire, là. Tu sais, quelqu'un devrait être forcé à dire, ben prends des vacances, mais ça arrivait dans le temps où les gens étaient tellement occupés puis ils voulaient vraiment pas quitter leur, je sais pas, leur fonction. Puis souvent, il y en a qui prennent à peu près pas de vacances, mais c'est
oui,
pas...
Il fut un temps où c'était mal perçu de prendre des vacances.
Ouais,
hein,
où
je pense qu'en effet, maintenant, on se rend bien compte qu'on a besoin de ce temps d'arrêt pour recharger nos batteries, pour se recentrer sur nous-mêmes, pour aussi simplement ne rien faire. Et Dieu sait si la contemplation, c'est important.
Moi j'ai une double maîtrise là-dedans, de rien faire.
Alors, c'est parfait. Tu vas très bien.
Oh, je vais très bien. Ça me force pas trop.
Je pense que les gens ont oublié ça. C'est vraiment important. Ça permet vraiment, dans le sens figuré du thème, recharger nos batteries et puis nous retrouver, nous, et retrouver nos proches.
Oui. Et ne rien faire, c'est pas ne rien faire. On fait toujours quelque chose. Le cerveau travaille, le petit hamster roule. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si on fait rien, c'est justement un temps d'arrêt qui, à mon avis, nous amène peut-être des idées ou nous amène...
Ça veut dire qu'on s'occupe de nous.
Oui.
Faire un temps d'arrêt.
Puis peut-être de reprendre une nouvelle façon de vivre au retour. Là, si les vacances
Pourquoi
sont assez longues.
Mais ça peut être aussi juste ne rien faire parce que... Ça fait partie du package pour prendre soin de nous.
Contemplatif, c'est beau.
Voilà.
Je t'en parle souvent, c'est de contempler les oiseaux, la nature. Mais
pourquoi pas,
effectivement.
Et en fait, on rigole un peu de tout ça, mais ça a été bien vérifié par notamment une étude australienne qui a vérifié cet aspect-là et qui a fait le lien entre le fait qu'en vacances, on met en application des thérapies qui sont déjà utilisées par des thérapeutes professionnels, que ce soit la musicothérapie, l'ergothérapie. Donc, on va aller fabriquer des petits objets, on va s'inscrire à un petit atelier d'artisanat. On va aussi...
On va jouer dans le sable, peut-être.
On va jouer dans le sable, côté, excellent, voilà.
Ben oui.
On va s'arrêter dans la rue pour écouter de la musique,
ouais.
Si les gens jouent de la musique. Tandis que des fois, bon, on dit, oh, ils jouent bien dans le métro, mais il faut que j'y aille.
Ouais, ouais.
Bon, tandis que là, on va prendre le temps. On va peut-être prendre notre guitare avec nous et se dire, oh, ben, je me fais quelques accords, ça me fait du bien. Puis du coup, on fait plus que des accords. Et on rencontre quelqu'un d'autre qui entend.
Et on compose un grand hit. Et on devient célèbre.
Ah, ça, c'est encore autre chose, mais.
Non, mais c'est vrai que.
Pas.
Effectivement. Mais c'est vrai que les gens ne croient pas. Tu sais, ton titre, quand même, quand le voyage nous soigne, c'est rare que les gens vont dire je m'en vais en voyage pour me soigner. Mais dans les faits, c'est ça.
Oui, il y en a qui croient à cela, dur comme fer. Je pense qu'il faut quand même faire attention. À la base, il faut être un minimum bien pour partir en voyage.
Ouais.
Si on va vraiment extrêmement mal, on ne sera pas capable de prendre l'avion ou même pas capable de prendre sa voiture ou le bus pour aller à Kamouraska.
Et de décrocher une fois rendu, peut-être que ça va être trop présent.
Ça va être trop difficile. Donc, il faut faire attention, évidemment, à cet aspect-là. Et vraiment, on le sent soi-même si on est suffisamment bien pour partir.
Ouais.
Donc, quand je citais d'autres thérapies déjà très connues, et en fait, il y a maintenant l'exercice. Certains thérapeutes utilisent vraiment l'exercice physique pour endiguer la dépression et aussi même pour prévenir la dépression. Donc, les gens qui savent qu'ils ont des tendances dépressives aussi, on va leur faire faire des exercices. Ils doivent s'atteler à ça, comme on doit prendre un médicament. Il y a aussi le fait que stimuler les sens est aussi dans plusieurs thérapies. Adapter les repas à nos besoins. Faire très attention à ce qu'on mange, bien manger, pas manger ce que je peux acheter vite, pas cher, au petit resto du coin où on va être malheureux après, et puis on va encore manger une cochonnerie derrière, parce que dans le fond, il n'était pas satisfaisant. Pendant les vacances, on fait plus attention à tout ça. À la limite, on s'arrête pour faire un bon repas qui nous fait plaisir. On a pris le temps de choisir chaque aliment, et on passe du temps à table, des fois juste à se faire plaisir à jaser ou à manger quelque chose qu'on aime. Donc tout ça participe et donc c'est pas étonnant que les retombées, les bienfaits arrivent comme pour une thérapie professionnelle, on va dire.
Et ça a été prouvé là, d'après des études?
Tout
c'est
à
ça,
fait.
Comme quoi
c'est une étude, celle dont je vous parle, ouais. C'est une étude de l'université Edith Cowan, qui est une université australienne. Voilà, tout à fait. C'est un fonds scientifique tout à fait prouvé. Alors... en fait, on peut se dire, mais au-delà de notre dernier voyage, Yvan, est-ce qu'on peut penser à des bénéfices qu'on a tirés? Si maintenant, je dis à l'auditeur aussi, essaye de faire un exercice avec nous. Tiens, le dernier voyage que tu as fait, et ça ne doit pas être l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe, on peut avoir été à un endroit plus proche. Qu'est-ce que ça nous a apporté? En quel sens on a eu une amélioration de notre santé mentale? Moi, je pourrais peut-être briser la glace disant que, par exemple, moi, ce que j'ai adoré et vraiment où j'ai senti une coupure quand je suis revenue, c'est que j'ai fait du kayak de mer.
Mm-hmm.
Et quand je suis rentrée à terre, j'étais vraiment comme... sur mon petit nuage, je planais un petit peu. Et puis, du coup, je suis retournée faire... parce que je n'étais pas obligée, évidemment. Je suis retournée en faire. Et puis, j'étais beaucoup plus détendue. J'ai aussi, par exemple, assisté à un feu d'artifice. Et puis, du coup, on jase avec ses voisins. Je trouvais ça très sympathique. J'ai été aussi à une fête un peu folklorique où il y a des... des concerts avec de la musique celtique bien forte, avec de la cornemuse dans l'oreille. À un moment donné, on s'en court un petit peu, mais en attendant, on s'est bien amusé, on a rigolé, parce que c'est un endroit assez sympathique quand les gens font de la danse folklorique. Et voilà. Yvan, toi, qu'est-ce que tu aurais comme expérience
globalement,
à partager?
Moi, globalement, là, les vacances, pour moi, c'est la mer. Parce que la mer, à Montréal, on n'en a pas. Puis je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouve que partir à la mer, c'est ça qui est... J'essaie toujours de chercher, en tout cas, quelque part dans le voyage, la mer, parce que je trouve que c'est bénéfique, l'eau salée, le bruit, je sais pas, il y a quelque chose de thérapeutique. Personnellement, moi, c'est ça que ça me prend, entre autres, en vacances. Fait que c'est ça que j'ai trouvé récemment aussi. Mais quand je fais ça, normalement, je suis satisfait de la vacance, parce que ça va chercher... ça va peut-être équilibrer ou tempérer ou calmer. Ou, tu sais, c'est un peu ça qui se passe. Moi, c'est un peu ça que je cherche.
Oui. Tu sens que ça te fait un effet de relaxation ou de la mer, carrément.
Puis, autant physique que mental. Tu sais, il y a quelque chose dans l'eau salée. Tu sais, on dit après une journée, tu sais, déjà notre corps commence à... Je sais pas, il y a quelque chose dans l'air de l'eau, de l'air marin, en fait, là, qui va comme apaiser les gens. Ça fait peut-être pas le même effet à tout le monde, mais moi, ça me fait ça. Donc,
Sûr. Et puis, quand on est au bord de la mer, on a rarement des appels. Trop d'appels, on a rarement quelque chose d'autre à faire.
Ouais. Puis il y a quelque chose dans la nature qui est fort. Tu sais, la mer, c'est fort, mais en même temps, c'est doux, c'est fort en même temps. Ça, tout dépend.
Je suis d'accord, moi aussi. Je trouve que la mer, ça fait beaucoup.
En terminant quelques secondes, peut-être.
Je trouve qu'en fait, c'est génial, mais en effet, à Montréal, on n'a pas la mer, mais on peut très bien, en prenant simplement le temps de marcher dans un bois, retrouver cet esprit de voyage. Ce qui compte, c'est en effet ce mot-là, c'est l'esprit du voyage. C'est dire maintenant, aujourd'hui, je me déconnecte totalement.
Ouais.
Je suis comme en voyage, même si c'est une journée ou une fin de semaine. On peut se dire, je pars en voyage au lieu de dire que je prends une fin de semaine en forêt. Je pars en voyage. Et ça, ce sera bénéfique.
Très bénéfique, des belles habitudes à prendre. Merci beaucoup, Catherine Stassin, pour ce sujet sur le voyage cette semaine. Merci, à la prochaine.
Merci, Yvan.
J'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'éclipse ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes dires deviennent ma destinée.
Nous sommes Folie Douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre.
De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet « Les accords Toltec » que tu as débuté plus tôt à l'émission,
oui.
Pierre.
Les accords Toltec, d'après un livre qui s'appelle ainsi, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Accords Toltec, 4 règles pour mieux se connaître ». Et j'ai pris ça sur le site psychologie.com qui est un site français et c'est écrit par une dame du nom de Aurore Hemley.
C'est un best-seller, ça, finalement. Oui. Un livre qui fait beaucoup parler parce qu'encore une fois, ça touche à peu près tout le monde. Là. C'est mm-hmm. des grands principes de vie pour être heureux. Oui. Puis, tu sais, on se complique souvent la vie. Puis, mm-hmm. dans le fond, il faut se défaire à une certaine période de notre vie là, pour aller chercher à la source, en fait. Puis c'est un mm-hmm. peu ça que ça amène. Là.
Oui. Et on voit que les gens avaient ce souci depuis très longtemps parce que les Toltecs vivaient il y a 1000 ans, 1300 ans, donc c'est pas d'hier qu'on se préoccupe du bonheur.
Ce qui me surprend toujours, c'est de dire comment on forme notre caractère ou on forme notre personnalité au courant des années, puis c'est souvent par des mauvaises choses qu'on a apprises ou des mauvaises choses qu'on a mises en pratique. Ouais. Puis ce genre d'ouvrage-là nous donne un choc un peu de mm-hmm. changer des choses dans notre vie. Là.
Oui. Alors, j'avais commencé d'écrire les 4 accords Toltec. Le premier accord, c'est celui qui nous dit « Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous ni pour médire d'autrui. » Monsieur Olivier Perrault, qui est psychologue, nous dit « Miguel Ruiz rappelle le pouvoir du verbe sur le psychisme. Qui n'a pas gardé en mémoire une phrase blessante d'un parent et ne la fait pas encore résonner une fois adulte? La parole est un outil qui peut détruire ou construire. Contrairement à ce que nous croyons souvent, les mots ont du poids. Ils agissent sur la réalité. » Monsieur Perrault nous dit « Dites à un enfant qu'il est enrobé et il se sentira gros toute sa vie. »
Beaucoup ont des complexes toute leur vie, effectivement,
ouais.
à cause de ça. Hein.
Ah oui. Comment s'y prendre? Monsieur Thierry Crowe nous dit « En cultivant la modération dans ses propos, ne pas en dire trop ni trop vite. » Et d'après le chaman Miguel Ruiz, cela commence dans le discours que l'on se tient à soi-même. La clé, c'est l'attention à notre discours intérieur. Les critiques et les jugements que nous cultivons sur autrui, mais aussi les sempiternels, par exemple « je suis nul » ou « je suis incapable » ou « je ne suis pas beau » que nous entretenons à notre sujet sont des paroles négatives qui polluent notre mental.
Et certaines paroles certaines de ces paroles-là viennent peut-être de gens qui ont dit ça aux gens quand ils étaient plus jeunes aussi. Là.
Ah oui, ça avait souvent des proches.
Ça vient pas souvent de soi, là. Mm-hmm. C'est qu'il y a eu une influence.
Oui, là. Oui. Alors, ces paroles ne sont que des projections, des images faussées en réponse à ce que nous croyons que l'autre ou le monde attend de nous. Conclusion, parlons peu, mais parlons vrai, en valorisant aussi nos atouts et ceux d'autrui. Deuxième accord Toltec, n'en faites jamais une affaire personnelle. On nous dit « ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Les paroles et les actes de l'autre ne nous concernent pas en propre. » M. Thierry Crowe nous dit « ils lui appartiennent parce qu'ils sont l'expression de ses propres croyances. Vous êtes critiqué ou encensé, c'est l'image que l'autre se fait de vous. » Ce n'est pas vous. De même, les événements qui surviennent ne sont pas toujours des réponses à notre comportement. Selon Miguel Ruiz, nous devons sortir de cet égocentrisme qui nous fait croire que tout ce qui arrive autour de nous est une conséquence de notre attitude. Le « moi » et le « je » nous maintiennent dans l'illusion, donc dans la souffrance. Mais comment s'y prendre? Monsieur Thierry Crowe nous dit « il s'agit moins de rester stoïque que de prendre du recul ». Ramener à soi ce qui appartient à l'autre déclenche inévitablement de la peur, de la colère ou de la tristesse et une réaction de défense. L'objectif est de laisser à l'autre la responsabilité de sa parole ou de ses actes et ne pas s'en mêler. Cela suffit souvent à calmer le jeu. Troisième accord Toltec, ne faites aucune supposition. On nous dit « ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. » Monsieur Olivier Perrault nous dit « c'est un travers banal, nous supposons, nous élaborons des hypothèses et nous finissons par y croire. Un ami ne nous a pas dit bonjour ce matin et nous imaginons qu'il nous en veut. Selon Miguel Ruiz, c'est un poison émotionnel. Pour s'en libérer, il propose d'apprendre à mettre les choses à plat, par exemple en exprimant ses doutes. M. Thierry Croux nous dit « ce qui implique d'apprendre à écouter et d'être capable d'entendre ». Mais comment s'y prendre? Il s'agit de prendre conscience que nos suppositions sont des créations de notre pensée. Dès lors qu'une hypothèse devient une croyance, comme par exemple « cet ami est fâché contre moi », nous élaborons un comportement de pression. « Je ne l'aime pas non plus » ou « je dois le convaincre de m'aimer à nouveau ». C'est une source d'angoisse et de stress. Et finalement, le quatrième accord toltèque fait toujours de votre mieux. On nous dit dans le volume « Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger. » M. Olivier Perrault nous dit « Cet accord découle des trois premiers. Lorsque vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie et vous finissez par agir contre vous. Mais si vous en faites moins, vous vous exposez à la frustration, à la culpabilité et au regret. Le but est de trouver le juste équilibre. » Comment s'y prendre? Ce qui est juste pour soi ne dépend en aucun cas d'une norme. Alors, je dois m'arrêter ici, Yvan. Je rappelle le titre du volume, c'est « Les quatre accords toltèques ». C'était aux éditions Jouvence.
Merci beaucoup, Pierre. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de conclure ce rendez-vous, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission Folie Douce.
Oui.
La première, You're Not Real, You're Just a Ghost.
De Sophia Bell.
On a entendu La Bise.
De Julien Doré.
Dans la deuxième demi-heure de l'émission, On s'aimera toujours.
De Cœur de Pirate.
Et à l'instant, Cœur léger.
De Andréane A. Mallette.
Merci beaucoup pour ton choix musical et ton travail en régie.
Bienvenue, mon cher.
Merci également pour tes blocs espresso, les accords Toltec. Ça donne le goût de lire ça. C'est plein, rempli de sagesse, finalement. Oui. C'est très intéressant. Notre invité en début d'émission, Jocelyn Cormier, est avec nous. On a parlé ensemble des troubles du sommeil. Merci, Jocelyn, d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a proposé « Quand le voyage nous soigne ». Alors, c'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.